Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. Nous sommes donc là pour parler de la phase post-première guerre mondiale en Allemagne. Il n'aura échappé à personne que nous sortons de la phase commémoration à première guerre mondiale avec plein d'anniversaires ronds. En fait, il y a un anniversaire rond qui est important pour l'Allemagne et qui vient d'avoir lieu le 9 novembre, qui est la proclamation de la République au balcon du Reichstag à Berlin par Philipp Scheidemann. Et donc, nous entrons dans, pour l'Allemagne, une période importante de commémoration de la naissance de la Première République démocratique en Allemagne. Car ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pour l'Allemagne, la phase post-Première Guerre mondiale, c'est une phase de profond bouleversement, notamment avec le mouvement révolutionnaire qui a démarré de manière plus ou moins spontanée par un mouvement de révolte des marins à Kiel dans le nord de l'Allemagne et puis qui s'étend à de grandes parties de l'Allemagne, notamment dans le sud, où il culminera, pour ainsi dire, avec la République des Conseils en Bavière. La phase de la Révolution et la naissance de la République est une phase fort intéressante parce que c'est un moment de profonde transformation, de profonde remise en cause des structures traditionnelles et de profonde innovation, de réflexion innovative sur le système qui est en train de se mettre en place. Et l'idée de se concentrer sur ces premières années, c'est-à-dire sur le volet 17-23, permet de se concentrer justement sur le moment de transition, de construction, et d'oblitérer un peu ce qu'on fait généralement, c'est-à-dire lire la République de Weimar par sa fin, c'est-à-dire par son effondrement et la prise de pouvoir par les nazis. Alors, je me permets juste d'insérer comme parenthèse, c'est que dans la commémoration des différents événements de la République de Weimar et de la vie intellectuelle de la République de Weimar, la MSH aura forcément un rôle important à jouer, vu que c'est aussi un des lieux de la recherche sur la République de Weimar, avec le groupe de recherche sur la culture de Weimar, qui existe ici depuis 82, et que donc on est dans un des lieux où la réflexion sur Weimar s'est développée depuis un certain nombre d'années. Alors, la thématique de ce soir, on va l'aborder à travers trois ouvrages publiés par les éditions de la MSH, c'est-à-dire donc par trois biais. On va d'abord aborder par le biais des écrits pacifistes de Hans Bloch, qu'il écrit dans son exil en Suisse, entre 1917 et 1919. Puis on passera à une présentation de trois interventions qui ont contribué à l'ouvrage sur l'Allemagne 1917-1923, donc trois approches plus historiques sur des points généralement moins abordés par les grandes fresques historiques qui peuvent exister sur l'histoire et la naissance de la République. Et enfin, on abordera une troisième question importante qui émerge, ou qui réémerge plutôt, avec l'apparition de la mise en place de la République, qui est la question du féminisme. Est-ce qu'on peut finalement passer à un deuxième moment féministe, s'il y a un premier moment au tournant du siècle, il y a un deuxième moment féministe sous la République de Weimar. Et donc, on va commencer tout de suite avec les textes de Hans Bloch. Et pour introduire tout cela, je vais passer la parole à Alexandre, qui va nous lire un extrait d'un texte d'Hans Bloch.
Au peuple et à l'armée. Ce n'est pas vous, amis, que nous combattons. Ce n'est pas de vous, soldats allemands, pas de toi, peuple allemand, que nous souhaitons la défaite. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on en finisse avec les seigneurs et les hobereaux, qu'on dise assez à vos impitoyables oppresseurs, eux qui ont causé cette guerre, l'ont alimentée, la prolongent. Nous souhaitons qu'ils débarrassent le plancher, qu'ils quittent cette scène sur laquelle ils vous ont tous entraîné à votre insu pour que vous y fassiez le sacrifice de votre vie à des idéaux de violence, tout ce qu'il y a de plus délirant et étranger au peuple. Réveillez-vous, frottez-vous enfin les yeux, secouez-en le sommeil et les mensonges qui vous brouillent la vue. Voyez le monde tel qu'il est, tel qu'il veut devenir, nouveau, meilleur, plus heureux qu'auparavant et que jamais. Voyez aussi le rôle honteux qu'ont voulu vous y faire tenir les apôtres d'un ordre ancien, vermoulu, insupportable, les partisans de l'oppression, de l'autoritarisme princier. La terre tout entière ressent les pulsations d'une liberté nouvelle. Les peuples veulent enfin s'unir sous la bannière de la liberté. Et vous seuls, soldats, hommes du grand et glorieux peuple allemand, endurciriez votre cœur et tourneriez votre force contre vous-même ? Contre la réalisation des idées de liberté de vos poètes et de vos philosophes ? Est-ce pour cela qu'ont vécu parmi vous Schiller, Fichte et Kant ? Qu'ils ont enthousiasmé votre jeunesse et vous ont éduqué ? Pour qu'à la fin la plus sèche et la plus stérile des castes, celle du pouvoir prussien, vous humilie, fasse de vous le peuple de la servitude et du plus affligeant passé ? Un peuple qui lui-même asservi menace d'une semblable servitude tous les autres peuples ? Réveillez-vous enfin, assez dormi, assez de cette effroyable erreur qui est votre existence actuelle. Cessez de vous replier sur vous-même, voyez le monde en face, voyez votre essence véritable, votre essence meilleure, ensevelie. Devenez jeune et solidaire de la jeunesse, d'une humanité renouvelée. C'est seulement tant que vous demeurerez lié à ceux qui ont concentré en eux toutes les forces du mal et de l'oppression que vous serez en butte à l'hostilité, au mépris de la démocratie présente et combien plus de celle qui vient. Sortez et voyez. Nous voici à une belle époque. Pour la première fois depuis longtemps, l'époque est belle. Il vaut la peine de vivre, d'être jeune. Le monde vous attend, il espère vos actions, vos voix. In tyrannos, malheur au tyran, telle est la devise placée par Schiller en exergue de son premier drame. Ah, si l'âme d'Arminius pouvait encore couver sous la cendre. Cette âme, elle attend vous et elle espère vos œuvres. Mais l'ennemi, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas nous, allemands démocrates à l'étranger, qui vous parlons en ces termes. L'ennemi, ce sont les hobereaux prussiens que vous devez expulser. Et à l'heure même où l'âme de la vieille nostalgie allemande de liberté se réveillera enfin et accomplira son œuvre, dès ce moment régnera la paix. Le monde sera pleinement réconcilié. Les armes ne se tairont pas avant. La Prusse et la guerre. Une Allemagne libre aura la paix. Rien de plus mensonger que cette illusion misérable dont la caste militaire vous a aveuglé, selon laquelle la défaite de ces militaires signifierait aussi l'effondrement de l'Allemagne. Sans le moindre doute, vous devez gagner la guerre, mais c'est la guerre de votre liberté qu'il vous faut gagner. Non pas la guerre de vos boutiquiers et usuriers, de vos hobereaux et de vos va-t-en-guerre. Cela, en vérité, il faut que soient mis en pièces leur pouvoir et leur mentalité, afin que le monde, Allemagne y compris, puisse se tourner vers d'autres buts que la violence et la fourberie. Afin que le puissant front intérieur, la barricade sur laquelle s'était alliée naguère contre la droite toute la social-démocratie et tout le libéralisme allemand, connaisse enfin un triomphe éclatant contre Potsdam et son conseil de la couronne, contre la peste de la violence, contre les hobereaux prussiens, ennemis naturels de la liberté. Ce qui est défaite à leurs yeux est pour vous victoire. Car celui qui se bat pour sa propre survie en cette guerre, ce n'est pas, mais pas du tout le peuple allemand, mais plutôt celui qui l'a ruiné, son gouvernement militaire avec sa dynastie. Et cette guerre, eux vont la perdre. Ce jour-là, et nous bénissons ce jour, une Allemagne libre regagnera enfin le respect et guérie retournera aux œuvres qui sont conformes à son essence.
Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole pour faire quelques commentaires sur ces textes-là à Gérard Rollet. Gérard Rollet est professeur émérite d'histoire des idées à Paris-Sorbonne. Et surtout, Ernst Bloch est un ancien compagnon de route, parce que si je ne me trompe pas, tu as fait ta thèse sur Bloch, en partie. Donc, on a là quelqu'un qui connaît Bloch depuis des années et qui a travaillé dessus depuis des années en y revenant par vagues. Et donc, je te laisse la parole sur ces textes-là qui sont... pour le moins engagé, qui se réexplique par le contexte, je suppose.
Oui, ce qui me paraît d'abord important, c'est l'épreuve du gueuloir, comme disait Flaubert. Je pense que le texte l'a à peu près surmonté, ce qui plaide évidemment non seulement en faveur de l'acteur, de le lire, mais aussi en faveur du traducteur, que je ne fais ici que représenter. Le traducteur initial à qui nous avons donné un petit coup de main, compte tenu de la difficulté des textes de Blorff, est Lucien Pelletier, qui est professeur à l'université de Sudbury, et qui est un des spécialistes les plus pointus que je connaisse de Blorff. C'est quelqu'un qui s'est complètement investi dans la philologie blochienne, ce qui n'est pas si fréquent de nos jours, et à qui nous devons, au fil des années, plusieurs rééditions ou éditions de textes méconnus ou injustement oubliés d'Ernst Blorff. En particulier, le texte intégral de la thèse de doctorat de Blorff sur Rickert et le problème de la métaphysique, qui est évidemment un ouvrage pour happy few, pour les spécialistes, mais qui présente un intérêt pour une unité de recherche consacrée, partiellement au moins, à la réédition de corpus. Alors, il est clair que l'occasion du jubilé est favorable au corpus et à l'édition de corpus, à la redécouverte de textes souvent injustement oubliés. Et je crois que c'est le cas de ces trois textes de Blorff qui ont été écrits entre 1917 et 1919. Ils sont tous les trois à peu près sûrement de l'année 18, mais le séjour en Suisse de Blorff a duré 2 ans, hein, de 17 à 19. Il a eu le temps pendant ces 2 années d'écrire pour la Freie Zeitung, la Gazette Libre, une bonne centaine d'articles. Et en plus, il a écrit donc 3 brochures, donc de gros articles publiés sous forme de brochures, qui sont les 3 textes réunis dans ce volume. Donc, une défaite des armées est-elle utile à l'Allemagne ? C'est le texte dont on vient de lire un extrait. Un deuxième texte qui s'intitule « Vademecum pour les démocrates d'aujourd'hui », qui est le plus long, et un troisième texte qui était une commande pour l'archive für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, édité par Jaffé, Zombart et Weber, une commande donc sur les mouvements socialistes en Suisse. Alors, pour commencer par ce dernier texte et en dire juste vraiment 2 mots, c'est un texte qui, pour les historiens, est précieux parce qu'il apporte beaucoup d'informations de première main sur l'extrême diversité des mouvements qui existaient à l'époque dans la mouvance socialiste et anarchiste au sens large, avec ses variantes catholiques. C'est un texte de première main qui présente tout particulièrement cet intérêt historique, proprement dit. Le texte que vous avez entendu, en revanche, est clairement un texte militant. C'est un texte dans lequel Blorff adopte la position extrémiste qui était celle de la Gazette Libre, die Freie Zeitung, même si par ailleurs il a critiqué la Gazette Libre qu'il tenait pour un journal bourgeois, au bout du compte. Mais ce journal bourgeois défendait des positions extrêmement radicales qui sont reprises par Blorff. Il souhaitait carrément la victoire des pays de l'Entente, saluait évidemment, comme beaucoup d'intellectuels allemands à partir de 1916, le plan de paix de Wilson, et associé à cela également une prise de position favorable à la révolution russe, sur quoi il faut ajouter immédiatement que Blorff, en revanche, à la lecture de ces textes, apparaît à cette époque comme extrêmement réservé à l'égard du bolchevisme et du léninisme. Déjà à l'époque, Bloch se prononce pour un socialisme beaucoup plus ouvert et l'ouvrage, enfin la brochure sur les mouvements socialistes et utopiques en Suisse, de ce point de vue-là, n'est pas seulement un témoignage historique de première main, c'est aussi une volonté d'explorer des variantes, des possibilités utopiques du socialisme. Ça, c'est très particulier à la pensée blochienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Que ces textes comportent également, ça servira de transition pour le deuxième ouvrage que nous voulons présenter ce soir, ces textes accordent beaucoup d'importance à l'Allemagne du Sud et du Sud-Ouest. Bloch développe l'idée que les Allemands du Sud-Ouest et du Sud sont en mesure de mener à bien une révolution démocratique plus ouverte qu'il n'est possible, évidemment, en Prusse et qu'il n'est possible en Autriche, pour des raisons certes différentes à chaque fois. Mais il y a pour Bloch un esprit libéral, ouvert, particulier au peuple du sud et du sud-ouest de l'Allemagne, dans lesquels donc il investit beaucoup d'espoir, en particulier dans la révolution bavaroise dont nous parlera Cécile Poncelet, jusqu'à dire, c'est le dernier mot, jusqu'à dire que si Eisner est vaincu, l'Allemagne le sera aussi pour plusieurs décennies.
Je vais juste laisser la parole à Alexandre pour une deuxième extrait de ouais. Dernier extrait d'un des textes de Bloch. Alexandre, vous avez la parole.
Nous ne sommes pas devenus et demeurés jeunes pour toujours rester sous ces armes funestes. Mais si l'issue de cette guerre demeure le moindrement indécise, le monde ne trouvera pas de paix jusqu'à ce que l'esprit militaire prussien soit définitivement brisé dans une nouvelle guerre, jusqu'à ce que la vie nationale sera proprement infernale, âpre et oppressante comme jamais auparavant. L'effervescence des masses ne trouvera pas d'issue vers le haut. Lorsqu'une machine militaire est si puissante et si bien huilée, une grève générale ou même une révolution est condamnée à l'étouffement en l'espace d'une semaine, et à s'attirer une réaction encore plus épouvantable. L'Allemagne coupée de tout. L'Allemagne condamnée à l'exploitation la plus stricte et la plus impitoyable de ses forces laborieuses, au joug le plus inimaginable de la réglementation. L'Allemagne d'ores et déjà enrégimentée dans une économie de transition éminemment retorse et contre-révolutionnaire, en permanence sous les armes, au prix de la faim, et de l'oppression. L'Allemagne haït du monde entier, condamnée à un rôle de ténébreuse citadelle autour de peuples voisins annexés et exaspérés dans les Balkans supérieurs du Nouvel-Orient. Une telle Allemagne, en proie à un tel esprit militaire, deviendrait certainement un pénitencier en comparaison duquel l'état policier de la période d'avant 1848 aurait sans doute les allures d'une bacchante et rayonnerait de lumière. À cela s'ajoute le maintien sous les armes de la totalité du contingent, du fait de l'urgence, car le monde s'arme de toute évidence pour la guerre décisive, la guerre finale. Une paix n'aurait pas même valeur d'armistice. La deuxième guerre punique dont rêvent les pangermanistes serait commencée non pas par l'Allemagne, mais par le monde, qui tout entier et inlassablement s'armerait autant qu'il peut. Les Anglais tenaces, les Américains archidémocratiques, descendants de ces farmeurs qui bravèrent tous les dangers des solitudes et des régions sauvages, n'ayant de cesse que soient vaincus, surmontés, entièrement terrassés les obstacles. Le monde anglo-saxon tout entier, pour ne rien dire de la France, et des 150 millions de Russes qui présentement s'arment pour la revanche ont engagé leur honneur pour que se lève une ère nouvelle, pour qu'à l'est de l'Elbe soient enfin brisées les glaces dans lesquelles le militarisme et le féodalisme prussien se sont si longtemps gardés dispo, se sont si opiniâtrement conservés. Jamais les peuples libres ne supporteraient le joug prussien. Jamais l'Allemagne, prise dans une conjoncture si contraire à l'heure présente, ne pourrait attirer sur elle le moindre regard favorable. D'une manière ou d'une autre, il faut que la Prusse disparaisse. L'humanité tout entière est saisie par les idées libérales de la Révolution française, par les idées sociales de la Révolution russe. Et au même moment, on laisserait triompher et se verrouiller un despotisme d'une dureté, d'une inhumanité inégalée, un despotisme sans faille et sans issue, tout un musée vivant où sont cultivées les méthodes d'exploitation, de domination et de tyrannie de tous les temps, dans une réaction qui opprime plus durement que jamais ne le fit le tsarisme au summum de sa puissance. Voyant cela, on est presque pris de désespoir en pensant au destin qui attend la jeune génération dans une Allemagne où le militarisme ne serait pas complètement écrasé.
Merci beaucoup. On va donc passer au deuxième ouvrage. L'idée est quand même, et je trouve que Bloch, pour ça, moi j'ai été étonné à la lecture de certains nombres des textes de Bloch, est très étonnant parce qu'on trouve chez Bloch, à la fois dans la période suisse, un éloge de Wilson, une espèce d'annoncé quasi christique de Wilson comme personnage du renouveau, une vision très mystique. Et puis on a avec Bloch aussi ce que dit Peltier dans son introduction à l'ouvrage, finalement le tournant vers l'Union soviétique, vers une ouverture sur l'Est. Donc Bloch est un bon exemple de tous les bouleversements possibles dans cette période-là, entre la fin de la Première Guerre mondiale, entre 1917, enfin la dernière année, et 1923. Et c'est cette période donc de bouleversement que essaie d'aborder le deuxième ouvrage, Allemagne 1917-1923, le difficile passage de l'Empire à la République. Alors l'accent est mis dans le sous-titre même sur l'idée de la transition de la monarchie à la République. L'idée était à l'origine, je crois, aussi de mettre un peu l'accent sur des perspectives un peu différentes, un peu moins classiques que celles qu'on a dans les ouvrages d'historiographie sur la République de Weimar. On va en aborder trois. Moi, par exemple, j'ai fait une contribution en partant d'une réflexion sur quelle est la perception qu'on a de la réalité historique. C'est-à-dire que sait-on d'une réalité historique passée ? Et le point de départ, c'est de dire, un historien, quand il écrit l'histoire d'un fait, d'une période, d'un pays, il fait forcément des tris. Il crée une narration. Donc, il crée un enchaînement d'événements. On passe de A à B, à C, à D. Et même s'il fait un effort pour essayer de montrer que l'histoire qu'il raconte n'est pas l'unique histoire possible, un historien, à tout moment, élimine ce qui, au moment historique, quand il advient, n'est jamais une route à sens unique, mais toujours un carrefour avec plein de possibles virtuels. Et ma contribution consistait donc à dire, on pourrait, pour avoir une bonne perception de l'enjeu de la période donc de 17-23, il faudrait aussi faire revenir dans notre vision des possibilités qui sont des virtualités qui n'ont pas été réalisées, donc qui se sont révélées comme c'est possible qu'ils vont finir sur le grand cimetière qu'est l'histoire, ou plutôt sur le grand cimetière de ce que l'histoire n'est pas, c'est-à-dire n'entre pas dans la grande narration, mais qui pourtant, au moment du bouleversement, donc entre 17 et 33, sont une réalité possible. Et pour réaliser cette réflexion-là, j'ai pris l'exemple d'un auteur qui s'appelle Zygmunt Rubinstein. Zygmunt Rubinstein est aujourd'hui totalement inconnu. On a très peu de sources historiques sur lui. On sait qu'il a été, qu'il est autrichien, qu'il a fait des études de droit à Vienne à la fin du 19e siècle, qu'il devient journaliste et qu'il travaille pour la Wiener Tagespresse, Tageszeitung, mais qu'il est directeur de la rédaction. Il publie deux livres dans sa vie. Un premier livre en 1920, donc, qui s'appelle Socialisme romantique, qui est celui que je proposais d'analyser. Et puis un deuxième qui s'appelle Wirtschaft und Herrschaft en 1931. Mais on ne sait rien d'autre de lui. Et toutes les informations qu'on a sont concentrées sur très peu de sources, sont concentrées sur les rappels qu'on a de sa vie quand il meurt en 1934 à Vienne. Et sinon, Rubinstein a totalement disparu. Et s'il survit un peu, c'est grâce au livre de 1920, Socialisme romantique, qu'il publie donc dans un contexte particulier, qui est celui de la deuxième phase de la Révolution. Si on considère que la première phase, c'est celle où il s'agit de renverser la monarchie, celle qui se réalise à la fin de l'année 1918, on rentre dans la deuxième phase de la Révolution, avec le printemps 1919, où tout à coup la question qui émerge est moins celle de contre quoi on est, ça tout le monde est d'accord, on ne voulait plus de la monarchie, mais maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on veut installer. Et c'est là où les dissensions vont commencer à apparaître entre le mouvement qu'on va qualifier de modéré, social-démocrate, qui va se mettre à construire une république démocratique, et puis les mouvements plus radicaux de la gauche qui voudraient une république des conseils, sur l'exemple soviétique, qui aimerait donc faire plutôt installer un système révolutionnaire plus traditionnellement marxiste-léniniste. Et Rubinstein prend la parole par son livre dans ce contexte-là, justement parce qu'il voit le danger qu'il y a d'une exagération à gauche, pour ainsi dire, et qu'il voudrait donner un fondement à une pensée révolutionnaire modérée. En fait, lui-même est plutôt social-démocrate, et il voudrait donner un fondement à la social-démocratie qui ne soit pas marxiste. Parce qu'en fait, son analyse est de dire ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire cette espèce de désorientation de la social-démocratie, elle est due au fait que le marxisme, dans l'interprétation de Rubinstein, qui est peut-être un peu réductrice, mais dans l'interprétation de Rubinstein, le marxisme offre tous les outils qu'il faut pour renverser le système, met l'accent sur toutes les contradictions du système capitaliste. Mais une fois que le système capitaliste a été bouleversé par la lutte des classes, par la prise de pouvoir par les classes opprimées, le logiciel de ce qu'il faut faire après est relativement faible, ce qui expliquerait que la social-démocratie soit totalement désorientée, du moins dans son analyse, après la prise du pouvoir, ou en tout cas après le renversement de la monarchie. Donc, Rubinstein va développer une pensée qui met l'accent sur le nouveau socialisme qu'il voit émerger à travers la Révolution allemande. Il voit émerger à travers la Révolution allemande une nouvelle forme de socialisme qu'il va fixer autour de la notion de conseil. Pour lui, les conseils, les Räte, sont une forme particulièrement allemande de la Révolution et l'expression d'un socialisme nouveau, d'un socialisme non plus fondé sur la théorie marxiste, mais un socialisme fondé sur la logique communautaire, organiciste, de solidarité. Et en fait, pour avancer, pour créer une tradition à sa pensée à lui, il va essayer de montrer que, justement, la pensée socialiste que font émerger les conseils, ce n'est pas la pensée marxiste, qui n'avait pas prévu les conseils. Dans la théorie de Marx, on n'a pas la forme du conseil n'est pas prévue en tant que telle, en tout cas telle qu'elle est pratiquée dans la Révolution allemande. Donc, Rubinstein essaie de montrer que cette idée-là, elle est particulièrement allemande et qu'en fait, elle tient à des racines plus anciennes, antérieures au marxisme, que serait la pensée romantique. Donc, Rubinstein va mettre en place une argumentation qui essaie de montrer qu'il est possible de penser un socialisme démocratique, organiciste, sur la base des idées du romantisme allemand et non plus sur la base du marxisme et surtout du marxisme-léninisme. Et donc, il va développer une théorie socialiste sur deux axes, un projet politique qui sera le projet politique d'une démocratie autogérée fondée sur la démocratie directe qu'incarne justement les conseils ouvriers et les conseils de soldats, ce qui est une vision relativement classique du fonctionnement en démocratie directe. Mais surtout, parallèlement à ça, il va développer une deuxième axe d'argumentation qui sera un axe sur la mise en place d'une démocratie sociale, d'un socialisme démocratique en économie, fondé sur un corporatisme organiciste, donc fondé sur la solidarité entre travailleurs et propriétaires des moyens de production, et non pas sur l'antagonisme. Et il voit une première réalisation de cette logique-là, de coopération plutôt que d'affrontement, dans les contrats entre Stinnes-Legien de 1918. C'est ça, Central. Donc de 18, où justement où il y a un accord entre le grand industriel qui est Legien et l'inverse. De Stinnes qui est le grand industriel et Legien qui est le président du un des grands leaders syndicaux de l'Allemagne de l'époque. Et donc, ce qu'il essaie de développer Rubinstein, c'est donc, en rattachant ce socialisme nouveau à la pensée romantique, de développer une pensée qui serait plutôt fondée sur la solidarité organique, fondée sur deux éléments essentiels, je ne vais pas m'étendre, mais deux éléments essentiels. Le premier argument, il est théorique, c'est de dire que la théorie romantique, elle, va mettre l'accent sur la valeur d'échange plutôt que sur la valeur marchande. Donc, l'accent romantique est plutôt celui sur la communauté créée par l'échange de biens plutôt que celui sur l'affrontement fait par la procédure de vente. Et le deuxième axe qu'il va développer sera la mise en place sera la mise en avant du concept de corporation Zunft pour penser les communautés économiques dans l'entreprise et même au-delà de l'entreprise. C'est-à-dire, il propose de dépasser l'entreprise comme unité économique de réflexion et de passer à la corporation comme unité de réflexion pour voir le système économique. Alors, l'idée fondamentale de Rubinstein, c'est donc d'offrir une théorie politique et économique qui permettrait de réaliser la réalité des rites dans le mouvement révolutionnaire et de le transposer dans la Constitution. De fait, il y a des éléments de cette réflexion-là qui sont repris dans la Constitution de Weimar, où les conseils ont une certaine place, du moins sur le papier. Mais ce que montre aussi justement la place qu'ont les conseils dans la Constitution de Weimar, c'est que ça n'a jamais dépassé le stade du papier. C'est-à-dire que même les dispositions d'un conseil central des questions économiques n'a jamais dépassé le stade du conseil provisoire pour les questions économiques. Et ça reflète aussi bien le destin des idées de Rubinstein, qui est celui d'avoir été lu, d'avoir été reçu, c'est-à-dire que ces idées se diffusent tout au long de la République de Weimar, on le retrouve en permanence dans les bibliographies, notamment les ouvrages qui portent sur le romantisme politique sur la République de Weimar. On va le retrouver, donc on sait qu'il est lu de manière relativement large, mais l'efficacité politique de sa théorie s'évapore littéralement, quasiment au moment où elle est publiée, vu qu'il est publié en 1920, et 1920, c'est le moment où l'idée des conseils en Allemagne est déjà de nouveau en train de retomber, de s'effacer. Donc, il représente effectivement ce qui me semblait important, c'était voilà, un chemin esquissé au début des années 20, mais qui ne s'est jamais réalisé. D'autres options ont prévalu dans ce contexte-là. Donc ça avait été ma contribution. Je vais donner la parole.
On peut dire un mot là-dessus, peut-être.
On peut. Le chef là-bas n'aimerait pas.
Sortir un peu du carcan, désolé. Il y a un mot à dire. Il y a deux choses à dire. La première, c'est que le modèle léniniste du soviet n'était pas complètement absent de la scène allemande et que l'intérêt de Rubinstein, dont la pensée en tant que telle n'a d'intérêt que représentative d'une réflexion qui se développe en Allemagne sur la possibilité de s'approprier la notion de conseil d'une façon allemande. Et de l'intégrer dans une pensée organiciste. Alors, il y a d'autres variantes qui vont être réalisées par la loi, car il n'est pas exact non plus de dire que la notion de conseil n'aura pas de suite. La loi du 4 février 1920 introduit les conseils sous la forme de conseils d'entreprise. Mais alors là, c'est tout à fait autre chose, les Betriebsräte. Et c'est une espèce d'assimilation, d'intégration, de légalisation, qui en même temps neutralise la radicalité de la pensée des conseils.
Ça pose aussi la question Ben, on est bien d'accord.
Mais dans la problématique.
Ça pose exactement la question, c'est quel est l'effet, si tu dis toi-même, ça sert à dépolitiser, neutraliser l'institution, et son effet devient quasiment nul. Mais bon, objet de débat, on est bien d'accord. Je vais passer la parole donc à Cécile Poncet, qui, alors si j'ai bien compris, vous êtes inspectrice du travail, mais aussi l'auteur donc, d'un mémoire sur la République des conseils de Bavière. Et donc, ça fait une transition parfaite. Je vais vous laisser la parole sur Munich.
Je vous remercie. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, alors effectivement, donc là, on va parler de la pratique, puisqu'on ne va plus être que sur la théorie, mais sur la pratique des conseils. Comment, dans la réalité, ça, vous m'entendez bien ? Non, pas du tout. Bon, il faut que je parle plus fort. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Pardon. Ah, d'accord. Okay. Alors, donc effectivement, comme le rappelait M. Rock, le 9 novembre donc, est proclamée la République en Allemagne, alors par Scheidemann, effectivement, mais aussi par Karl Liebknecht, le même jour. Et donc, d'emblée, en fait, il y a cet affrontement sur l'instauration d'un régime démocratique en Allemagne et quelle forme va prendre ce régime. Puisque des conseils d'ouvriers et de soldats, comme l'a rappelé M. Rock, vont se former. Mais il va y avoir également des républiques des conseils, donc où le pouvoir va être détenu par les conseils, donc à Brême en janvier ou à Braunschweig en avril. Et cependant, l'exemple bavarois me paraît intéressant à plus d'un titre, parce que, bon, d'une part, il est assez méconnu. D'autre part, la Bavière, bastion catholique, royaume dirigé depuis 7 siècles par une même dynastie de tradition, enfin d'économie plutôt rurale, avec une industrialisation tardive, ne paraît pas être la candidate idéale, quoi qu'en dise peut-être Ernst Bloch. Et donc, pourtant, c'est en Bavière, dans la nuit du 7 au 8 novembre, que va être proclamé, d'une part, l'État libre de Bavière, hein, le Freistaat Bayern, que le Land est toujours aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Et également la République sociale et démocratique de Bavière. Également, l'exemple de la Bavière permet peut-être de balayer un spectre large des tentatives démocratiques de l'époque, puisque donc, vont se constituer des conseils d'ouvriers, de soldats, mais également de paysans, ce qui est aussi unique en Allemagne, vont participer aux différents organes du pouvoir, donc effectivement des sociodémocrates, les indépendants, des sociodémocrates indépendants, donc formés en 17, et, je ne sais pas si vous voulez que j'explique. Non, c'est bon. Donc la gauche, des mouvements de gauche, mais également donc des anarchistes, des libertaires, des penseurs, des anarchistes et des communistes, bien entendu. En Bavière, il n'y aura pas seulement une République des conseils, mais il va en avoir deux. Il va y avoir deux Républiques des conseils, et les espoirs démocratiques vont être très rapidement et très violemment étouffés, puisque dès le 1er mai 1919, les espoirs démocratiques vont être complètement étouffés et vaincus pour ce qui est de la Bavière. Donc, peut-être revenir sur la Révolution, le déroulement de la Révolution très rapidement. Donc, on a aussi une particularité en Bavière, c'est qu'on va avoir trois instances. Donc, on a un gouvernement avec à la tête Kurt Eisner, qui est un journaliste de Berlin, juif, social-démocrate, qui va proclamer le Freistaat Bayern, vont se former jusqu'en décembre, vont pouvoir être dénombrés plus de 7000 conseils d'ouvriers, de soldats, de paysans, ce qui est un nombre assez impressionnant, mais également vont se former, ça c'est une volonté de Kurt Eisner, un conseil national provisoire, donc qui va remplacer en fait l'ancien parlement régional et qui va être composé d'anciens députés de l'ancien régime pro-républicains, on va dire, donc des libéraux, des sociodémocrates, des membres des conseils d'ouvriers, de soldats, de paysans, mais également des représentants de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les associations. Donc on va avoir les représentants de défense de consommateurs, des représentants des associations féministes, dont parle aussi Madame Briat dans son article, donc notamment à Augsbourg et Eman. Voilà, merci. Ça parce que Eisner a une volonté d'une démocratie, pas uniquement de soviète à la russe, mais également avec une base qui soit la plus globale, qui intègre donc les citoyens, que tout le monde puisse participer à la démocratie. La révolution va quand même adopter des textes démocratiques importants. Donc, au niveau de la démocratie politique, le droit de vote des femmes, Kurt Eisner l'annonce dès la nuit du 7 au 8 novembre, le droit de vote des femmes, l'abolition des privilèges nobiliaires. Au niveau éducatif, la séparation de l'Église et des écoles, ce qui en Bavière n'est pas une mince affaire. Et également la démocratie sociale. Donc, par exemple, la journée de 8 heures va être aussi proclamée, va être créé un ministère aux affaires sociales. En revanche, la socialisation de l'économie va être retardée, puisque Eisner estime que l'état de l'économie bavaroise ne permet pas une socialisation immédiate. Voilà. Cependant, donc, y a de très fortes dissensions vont s'opérer, et notamment du SPD, mais également donc, le SPD, les libéraux qui vont contester le rôle des conseils, puisque le SPD, lui, ne reconnaît qu'un rôle consultatif au conseil. Et à la gauche, par contre, on va avoir les anarchistes tel Landauer, qui, eux, vont contester un régime démocratique parlementaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Rubinstein a lu Landauer, mais c'est le renvoi aux communautés médiévales, etc., était déjà quelque chose de très présent dans l'Aufruf zum Sozialismus de Landauer et sur les États-Unis d'Allemagne et leur constitution. Ce sont deux ouvrages de Gustav Landauer. Voilà. Donc, le SPD, bien entendu, lui, veut un régime parlementaire comme les libéraux, donc ils vont pousser pour des élections. Eisner, donc, va être contre. Ils vont appeler aux élections le 12 janvier, donc, et ça va être une défaite cuisante pour les révolutionnaires, puisque les indépendants ne vont obtenir que 2,5% des suffrages, avec une majorité pour le SPD et pour le Parti populaire bavarois, qui est conservateur. Voilà. Donc la situation est catastrophique pour les révolutionnaires. Jusqu'à l'assassinat de Kurt Eisner le 21 février 1919. Et ensuite, donc, vont être proclamées donc, tour à tour deux républiques des conseils, donc l'une menée par des anarchistes, des libertaires, des penseurs pacifistes, donc, et avec une prégnance quand même de penseurs et d'artistes, puisqu'on a Ernst Toller, Gustav Landauer, qui vont passer. Qui vont être au pouvoir, exercer le pouvoir. Et puis donc ensuite, les communistes refusent de participer, bien entendu, puisque les communistes, il faut que ce soit une république des conseils à leur. Qui répondent à leur. À leur conviction. Et donc, c'est hors de question que si ce n'est pas les communistes qui dirigent, ils ne participeront pas à la république des conseils. Ce faisant, ils vont reprendre le pouvoir et proclamer une deuxième république des conseils à la mi-avril. Et là, il faut quand même reconnaître que la situation est très critique pour la Bavière, pour les révolutionnaires du moins, puisqu'on a une opposition, une contre-révolution qui s'organise de plus en plus, aidée par le SPD. Donc on a des corps-fronts qui sont rassemblés au nord de la Bavière. Et en gros, la République des conseils est réduite à une portion très congrue, et j'en finis, qui est le sud de la Bavière. Et donc, le 1er mai, fête des travailleurs. Les corps envoyés par Gustav Noske vont entrer à Munich et Sebastian Hafner parle d'une terreur blanche. Pendant une semaine, ça va être des massacres. Jusqu'à 1000 morts vont être dénombrés. Et à partir de là, si vous voulez, la Bavière, les intellectuels, les artistes vont être pourchassés. Et c'est un gouvernement conservateur, ultra-conservateur, qui, à partir de 1920, prend le pouvoir. Et puis jusqu'au putsch de 1923, la tentative de putsch du 9 novembre 1923 d'Adolf Hitler à Munich. Voilà, enfin, la Bavière, après, ne connaîtra plus d'étincelles ou de possibles. Voilà, les possibles d'un régime démocratique seront éteints, en fait. Voilà, Munich ne scintillera plus. Voilà.
Merci beaucoup. De toute façon, on est tous un peu rapides. Mais c'est bien, Munich se termine dans le sang pour devenir après la Maison Brune, que ce sera sous le monde hitlérien. Et avec ça, on a aussi la transition, c'est-à-dire le sang. Le sang qui coule. Et on va en arriver à la violence et à la défense de la démocratie qui se met aussi en place très rapidement, d'ailleurs. C'est vrai qu'en Allemagne, on relie ça généralement plutôt à la Wehrhafte démocratie, c'est-à-dire après 1945. Et en fait, Nathalie Le Bodec, qui est donc maître de conférence à l'Université de Bourgogne, aussi auteur d'une thèse sur Gustav Rapoport et la naissance du droit social en Allemagne, mais surtout, je pensais aussi à une maîtrise sur Emil Julius Gombel, qui est statisticien qui a beaucoup travaillé sur les meurtres politiques sur la République de Weimar dans les premières années de la République, va donc nous parler de la violence et la réaction juridique à la violence. Attends, je vais rapprocher.
Oui, comme ça. Voilà. J'espère que ça fonctionne pour le... Oui, donc effectivement, moi, je vais parler d'un des défis auxquels a été confrontée cette jeune République démocratique. C'est celui de la violence politique qui est omniprésente dans toute la période, donc cette première phase jusqu'en 1923, et d'ailleurs également après. Et au moins pour la période de 1919 à 1921, on peut parler d'un état ponctuel de guerre civile. Hein, je cite ici un historien allemand. Alors c'est un phénomène qui en fait est assez nouveau pour l'époque, parce que même en novembre 1918, la révolution ne se fait certes pas sans violence, mais elle reste assez circonscrite, du moins surtout si on compare à ce qui est venu après. C'est aussi un phénomène qui est multiforme. Alors avec la République des conseils et son écrasement, sa répression extrêmement brutale, c'est effectivement un des exemples de ce qui s'est passé beaucoup dans la première phase, dans les premières 1919-1920, à savoir une sorte d'engrenage ou de spirale de la violence avec donc des soulèvements révolutionnaires, dont fait partie la République des conseils bavaroises, qui vont ensuite être réprimés de façon extrêmement violente avec donc par les troupes envoyées par le gouvernement, donc les fameux corps francs, qui sont en grande majorité constitués d'individus anti-démocrates et surtout foncièrement anti-communistes, anti-bolcheviques. Donc une répression qui va donner lieu à de multiples exactions en tout genre. Et puis donc c'est cette répression favorisant elle-même une radicalisation du mouvement ouvrier. Voilà une forme de cercle vicieux. Donc vous avez cité tout à l'heure Gustav Noske, qui effectivement donc était ministre de la Défense, un social-démocrate. Il y a notamment cet ordre qu'il a promulgué en mars 1919, donc pendant un soulèvement à Berlin, qui autorisait à fusiller immédiatement toute personne combattant les armes à la main contre les troupes gouvernementales, dont un ordre dont l'interprétation a donné lieu à de multiples exécutions sommaires de la part des troupes envoyées pour réprimer ce soulèvement. Dans une deuxième phase, à partir de 1920, ça change, on a toujours des actions violentes ponctuelles, il y a les tentatives de coup d'État, vous avez parlé de Hitler tout à l'heure, il y a aussi le putsch de Cap en mars 1920, et puis il y a ce phénomène des assassinats politiques visant donc des personnalités emblématiques de la République. Les deux exemples les plus célèbres, c'est Matthias Erzberger, qui était un des signataires de l'armistice, et donc qui est assassiné en 1921, et puis, il y a le ministre des Affaires étrangères en exercice, Walter Rathenau, qui est assassinée en juin 1922. Et donc, ce sont des attentats, hein, vous parlez de terrorisme, hein, politique, qui sont voilà, préparés, fomentés au sein de la nébuleuse paramilitaire nationaliste voilà, qui est surtout qui s'est développée en Bavière depuis justement 1919. Et donc, dès, comme tu as évoqué mon travail de maîtrise, Christian, effectivement, dès les années 20, il y a donc, on a eu des recensements, finalement, du nombre de victimes de ces différentes formes. Et donc, le statisticien en question, qui s'appelle Gombel, arrive à un chiffre, donc, sans tenir compte des affrontements armés directs qu'il y a pu avoir, et donc qui ont des combats directement, les affrontements armés directs, arrive à près de 400 victimes donc, d'assassinats politiques entre 1919 et 1922. Alors, bien parmi eux, il y a les personnes célèbres, comme Rathenau, et puis bien sûr Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht en janvier 19. Et puis, il y a aussi beaucoup d'anonymes, socialistes, communistes, présumés tels, et autres voilà, exemples anonymes. Alors, à côté de cela, il y a aussi des formes moins spectaculaires, hein. Par exemple, de nombreuses bagarres lors de rassemblements politiques, etc. Il y a aussi un élément qui n'est pas négligeable, c'est l'évolution du langage dans l'espace public. On sait que des assassinats comme celui de Rathenau ont été précédés de campagnes de dénigrement, même de campagnes de haine hein, extrêmement violentes dans la presse de la droite radicale, avec des slogans qui circulaient aussi comme « Descendez le Walter Rathenau hein, », c'est des choses qu'on pouvait entendre voilà, fréquemment à l'époque. Et donc, c'est aussi un signe que voilà, cette violence à but politique ou à motif politique, elle s'enracine aussi dans une société, dans l'espace public. Donc, ça constituait bien sûr un défi énorme, déjà pour tout État, puisque si on considère comme Max Weber que ce qui caractérise l'État moderne, c'est qu'il a le monopole de la violence légitime, comme il l'a formulé. Clairement, là, ce monopole était contesté à l'extrême gauche et de l'autre côté, de plus en plus à l'extrême droite. Et puis aussi parce que normalement, le propre d'une démocratie parlementaire, c'est de permettre ou d'offrir un cadre pour une résolution pacifique des conflits sociaux et politiques. Donc le défi, c'était d'arriver à intégrer finalement l'ensemble des groupes sociaux et politiques dans ce cadre. Donc clairement, si on regarde les choses depuis la fin, on va dire que la République de Weimar n'a pas réussi à le faire. Néanmoins, ce qu'elle a réussi à faire, c'est, si on regarde cette première phase, c'est déjà de surmonter ces crises multiples des premières années, ce qui, compte tenu du contexte, est presque un petit miracle, tout au moins un tour de force. Et ça souligne, enfin, je pense que tu as déjà aussi insisté là-dessus dans ton intervention, Christian, c'est qu'il faut aussi montrer la capacité de résistance, finalement, de cette démocratie parlementaire qui a surmonté ces six premières crises et essayer d'aller aussi à l'encontre d'une idée reçue qui est persistante encore jusqu'à aujourd'hui, savoir que la République ne s'est pas défendue ou n'était pas capable de se défendre contre ses ennemis. Hein, ça fait partie du récit fondateur ensuite de la RFA, qui se voulait une démocratie combative, militante, contrairement à Weimar. Et donc, le meilleur exemple de ça, c'est les réactions, justement, suite à l'assassinat de Rathenau, où là, on a pu voir qu'il était encore possible de mobiliser largement pour défendre la République démocratique. Il y a eu des manifestations très importantes qui, au départ, se sont bien déroulées. Il y a eu la décision donc, de faire une loi de protection de la République, qui a été adoptée en moins d'un mois à une large majorité, et où on voyait la tentative de s'adapter à ces nouvelles formes de violence politique qui étaient apparues, donc avec la création de nouvelles infractions pénales. Alors il y avait par exemple, bien sûr, la participation à une organisation visant à assassiner un membre du gouvernement, mais il y avait des choses aussi comme l'outrage aux symboles nationaux, comme l'outrage aux drapeaux, qui était très, très fréquemment objet d'insultes et de dénigrements. L'interdiction de parti était aussi possible, on ne le sait pas beaucoup, mais le NSDAP a été interdit dans le cadre de cette loi, sauf en Bavière, ce qui n'étonnera personne, vu le contexte. Ce faisant, et ça je trouve ça intéressant parce que ça fait écho aussi à la problématique actuelle sur la lutte contre le terrorisme, il y avait aussi, le gouvernement était aussi confronté à des problèmes, à savoir jusqu'où on peut aller finalement pour pour limiter ces formes-là, sans, tout en restant dans le cadre de l'état de droit, de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, d'association, etc. Donc, ce sont des thèmes qui ont aussi été débattus. Il y a eu aussi des tentatives pour finalement asseoir la légitimité de la République sur le terrain de l'éducation, qui était un gros problème parce que les enseignants étaient en grande majorité plutôt dans l'autre camp, et aussi sur le terrain des symboles nationaux qui ont vraiment été, durant toute la République de Weimar, un terrain de combat, de lutte entre républicains et les opposants. Donc le drapeau, la constitution, etc. Alors bien sûr, il ne faut pas du tout, faut pas surestimer ces tentatives qui ont eu souvent peu d'effet. Il ne faut pas non plus surestimer le consensus qu'il y a pu avoir, ce qui s'est passé en 1922, en juin 22. C'est très court, c'est un moment très court, et c'est aussi, on va dire, assez minimal. C'est-à-dire qu'il y a eu bien cette loi qui a été largement votée, mais au prix de beaucoup de compromis. Et on voit très bien qu'au Parlement, il y a un large consensus sur le fait qu'il faut préserver l'ordre, préserver la légalité. Donc il y a une opposition justement à la violence et à la contestation de la légitimité de l'autorité de l'État. Par contre, on voit que dès qu'il s'agit d'aller plus concrètement vers la défense de la démocratie parlementaire ou de certaines valeurs démocratiques, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et l'autre problème, c'est que si on voit des progrès dans l'intégration des partis qui sont au Parlement, notamment à droite, il reste le problème de tous ceux qui sont en dehors. Donc tout ce qui n'était pas représenté, dont notamment l'extrême droite ultranationaliste, aussi à l'extrême gauche, parce que même il y avait aussi en dehors du Parti communiste, aussi tous les mouvances anarchistes, radicales de gauche, il y a un nombre incalculable de scissions de partis et d'organisations. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'après 23, enfin, c'est des études récentes qui l'ont montré, certes, la situation se stabilise beaucoup, on n'a plus d'actions violentes, spectaculaires, etc., mais la violence politique dans les rassemblements, dans la rue, etc., elle demeure et elle persiste. Et après, elle fera un retour spectaculaire à partir de 1930, où là, en 32, il y a carrément des combats de rue, quand même, entre les différentes milices, organisations paramilitaires. Mais on voit bien que si on regarde la première phase, il faut aussi se détourner d'une vision fataliste, à savoir que la République a réussi à surmonter ça et que donc ce n'était pas forcément l'autoroute vers ensuite un échec ou une catastrophe. Et pour terminer, en fait, j'ai relu récemment, pour une autre, toute autre raison, un essai. Et en fait, à la relecture, je ne l'avais pas lu depuis plusieurs années, son actualité, sa pertinence qui m'ont vraiment frappée, c'est un texte d'un juriste social-démocrate, Hermann Heller. C'est un texte de 28 qui s'intitule « Démocratie politique et homogénéité sociale ». Et en fait, il réfléchit sur les conditions de fonctionnement de la démocratie parlementaire et sur les moyens d'éviter en fait, que cela tourne, l'usage de la violence en, fait, en politique, de la violence publique. Et il a donc cette réflexion, donc il faut un minimum d'homogénéité sociale et surtout la croyance dans l'existence d'une base de discussion commune. Donc je reformule puisque je ne traduis ici. Donc il écrit ceci, « Tant qu'on croit à l'existence d'une telle homogénéité et qu'on part du principe qu'il est possible de trouver un accord avec l'adversaire par la discussion, là on peut, tant que ces conditions sont réalisées, on peut renoncer justement à l'usage de la violence et dépasser la logique de l'affrontement. » Bien le problème, d'ailleurs, dans la dernière phase de Weimar, c'est qu'il n'y a plus cette base de discussion, discussion commune ou cette croyance en une possibilité de trouver un accord. Et j'ai trouvé que, il y a quelques années, c'était moins évident, mais que c'était extrêmement pertinent aussi pour notre société actuelle, nos sociétés actuelles. Voilà.
Merci beaucoup. Tout cela est effectivement passionnant et ça pose effectivement le problème qui reste toujours central dans toutes nos réflexions, c'est aussi celui de la culture politique. Quelle est la culture de discussion et la culture et l'enracinement des idées démocratiques qui existent dans la société ou pas au début de la République de Weimar. D'ailleurs, le problème que tu abordes pose aussi la question de la continuité, justement, vu qu'on parle de la transition de l'Empire vers la République, pour la question de la continuité personnelle. De l'Empire à la République de Weimar, ce que vient montrer Marie-Bénédicte Vincent aussi, que finalement les juristes qui étaient sous l'Empire, ce sont les juristes sous le... Oui. Et Gombe, effectivement, donne un chiffre plutôt frappant.
Oui, j'ai oublié cet aspect, à savoir que le problème, c'est si on prend l'exemple de la loi dont j'ai parlé, son application. Et si on regarde son application, c'est effectivement assez catastrophique parce que, justement, ceux qui l'appliquent, donc il y a d'abord la police quand même, et puis ensuite il y a la justice, eh bien, on est plutôt dans le sabordage ou dans de la loi en question, c'est-à-dire que, voilà, souvent, par exemple, dans les infractions, voilà, il y avait l'apologie des assassinats ou des actes de violence envers les représentants de l'État. Et par exemple, il y avait eu un cas, donc c'était des personnes qui avaient fait une collecte de dons pour les assassins de Rathenau, qui étaient en prison. Et donc, c'était venu en justice, et bien sûr, ils n'avaient rien eu du tout. Ils avaient un non-lieu parce que ce n'était pas considéré comme l'apologie de l'assassinat en question, de vouloir soutenir et de collecter des dons pour les assassins qui étaient en prison. Voilà. Il y a aussi d'autres exemples sur le drapeau, notamment... où on contournait, ou sur le terme de Judenrepublik, qui n'était pas venu, donc République de Juifs, qui n'a pas été considéré comme un outrage, avec une sorte de distinction totalement assez tordue, entre disant que c'était une critique de la forme actuelle de gouvernement, mais que ce n'était pas une critique de la forme constitutionnelle de l'État. On peut s'interroger sur la distinction. Voilà, et Gombel, effectivement, avait montré le décalage entre le traitement, enfin, les peines infligées aux communistes, ou assimilés, et puis les peines infligées aux gens issus de l'autre camp. Ça, c'est lié à cette continuité sociologique, surtout dans les institutions par rapport à l'Empire.
Et des différences qui ne sont pas négligeables. Ah, c'est-à-dire qu'il manque que pour les assassinats politiques, par exemple, on parle de, en moyenne, 15 ans de condamnation pour les gens de gauche et de quelques mois pour les gens droite, pour le même... C'est ça. Donc, c'est vrai que là, il y a un problème de continuité personnelle qui est quand même plutôt étonnante. Eh bien, merci beaucoup. On va de ce pas passer au troisième moment. Troisième moment qui s'articule autour de la publication dans la revue Sociaux d'un texte de Marianne Weber de 1913, la femme nouvelle. 14, décidément, j'ai un problème des années aujourd'hui. Et pour introduire cela, on va écouter d'abord un extrait du dit texte de Marianne Weber.
La femme moderne est liée d'une manière ou d'une autre au mouvement féministe qui revendique l'autonomie spirituelle, intellectuelle et sociale de toutes les femmes. Qu'il y contribue directement ou qu'elle l'approuve seulement en son fort intérieur, en tant qu'être sexué, la femme moderne participe d'un tel mouvement puisque modeste, ses actes individuels et sa personnalité représentent quelque chose d'inédit. Il y a tout d'abord la volonté constante et consciente qui s'exprime depuis des décennies déjà de donner forme à des conditions de vie qui lui sont propres et, au-delà, de contribuer à la production du monde qui l'entoure. La volonté, qui est la sienne et qui la porte, la distingue des figures typiques de ces femmes du passé qui n'avaient aucune propension à combattre consciemment en faveur de l'intérêt du genre féminin ni même à travailler activement à l'édification de son environnement. L'activité des femmes était alors plutôt tournée vers la vie domestique, et ce n'est que lorsqu'elles en avaient le temps qu'elles se consacraient au développement intérieur de leur être. Ce type de femme pouvait certes se battre pour transformer vent et pluie, patience du printemps, culpabilité et troubles, destin caché, en une poignée de choses intimes. Mais elle appréhendait le monde externe comme quelque chose de naturel et d'immuable. Ce monde, qui ne lui en était pas moins familier, s'articulait avec son monde domestique qui, lui, bornait sa vie personnelle. Cette femme était une gardienne, non une artisane de la morale. Elle abandonnait à l'homme la capacité à concevoir et à définir les modalités de la vie publique. La possibilité de gagner en grandeur personnelle en créant un monde objectif ou encore l'opportunité de participer à la création de normes morales d'un État, du droit, de l'art et de la science. Voilà ce qui était déterminant. Elle faisait de nécessité vertu, elle vivait sa passivité face au monde objectif comme étant sa destinée la plus profonde. Rompre de manière consciente avec la tradition, critiquer les usages dont elles avaient hérité, s'élever contre les autorités, mais aussi tenter de diverses manières de donner forme au monde objectif. Toutes ces velléités étaient perçues par les hommes, comme par les femmes d'antan, comme autant de pratiques non féminines. S'engager sur une telle voie équivalait à déchoir de l'idéal féminin.
Merci beaucoup. Alors, pour nous brosser un rapide panorama résumé du mouvement féministe depuis le début du siècle, du XXe, jusqu'à la Première Guerre mondiale, je vais passer la parole à Anne-Laure Briat, qui est maître de conférence en histoire et civilisation allemande à l'Université Paris-Sorbonne, mais qui est surtout l'auteur de référence par sa thèse sur le mouvement féministe radical, entre guillemets, dans l'Allemagne wilhelmienne. Et donc, je vais te laisser la parole pour nous donner un peu de perspective sur le contexte du texte de Weber.
Oui, merci beaucoup. On va donc quitter peut-être le domaine de la violence sanguinolente pour passer à un autre type de violence, plus symbolique, je pense, à l'égard des femmes. On m'a demandé de vous présenter un panorama et de recontextualiser le mouvement féministe en Allemagne. Ça n'est pas très facile en peu de temps et je propose de vous présenter les étapes principales. Je dirais que toute l'histoire commence en 1848, lorsque des femmes, déjà sensibles aux questions sociales et politiques de leur temps, très naturellement, finalement, participent au soulèvement révolutionnaire du printemps 1848. Or, une fois la révolution échouée, on tape sévèrement sur les doigts des femmes, puisqu'on leur interdit, en Prusse, on leur interdit toute participation à des activités de nature politique. Donc, elles sont en particulier interdites de... Elles ne peuvent pas devenir membres de partis politiques, mais même toute association de nature politique leur est fermée. Et en Saxe, une loi est même baptisée d'après le nom d'une féministe contre laquelle elle se dirigeait, c'est la loi Otto. Une loi interdit aux femmes d'être rédactrice en chef d'une revue. Donc vous voyez, par ces deux lois qui passent en 1850 et 1851, très rapidement, à peine les femmes ont pris la parole dans l'espace public, on cherche à les bâillonner en leur interdisant une activité politique, et enfin, que ce soit par le fait d'être membre d'associations ou de coopérer à des revues politiques. Alors, au bénéfice d'une certaine libéralisation dans les États allemands, une première forme d'organisation de mouvements féministes voit le jour en 1865, donc avant même l'unification de l'Empire allemand, qui a lieu en 1871. Des associations de femmes voient le jour à travers tout l'Empire. Ensuite, il y a un moment de condensation et d'accélération du mouvement féministe. C'est dans les années 1890 et autour du siècle, donc 1900. C'est une période où on a à la fois une diversification des champs et des revendications, j'en parlerai dans quelques minutes, et une multiplication des associations, des structures. Les associations se regroupent selon des axes thématiques et à des échelles d'abord locales, puis régionales, puis nationales. Et autour de 1900, en fait même dès la moitié des années 1890, le mouvement féministe allemand s'internationalise également. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des associations spécialisées, elles vont chercher l'adhésion dans des structures internationales. Elles font leur entrée au niveau international en 1894, et 10 ans plus tard, en 1904, ce sont elles qui sont à l'initiative de la fondation de l'Association internationale pour le suffrage des femmes. On est donc dans une phase de bouillonnement au début du XXe siècle, d'extension des thèmes. Mais en même temps, on remarque qu'ils sont profondément, enfin intrinsèquement liés les uns aux autres. En termes d'effectifs également, alors il est très difficile en fait de savoir combien de féministes étaient actives, parce que la plupart d'entre elles étaient membres de différentes associations. Mais on décompte à peu près 500 000 féministes à la veille de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Alors du point de vue des thématiques, le questionnement féministe, le questionnement de la position et du statut des femmes dans la société allemande par, je dirais, enfin, ou est peut-être suscité par la très rapide industrialisation de l'Allemagne dans la deuxième moitié, enfin, à partir de la moitié du 19e siècle, qui contraint un certain nombre de femmes des milieux les moins favorisés à travailler non plus au sein de l'entité familiale, du foyer familial, mais à l'extérieur, notamment dans des fabriques, dans des usines. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucun moyen de se qualifier. En fait, elles n'ont aucune qualification. Le système éducatif ne le leur permet pas. Et donc, elles sont contraintes de prendre les emplois les moins bien rémunérés. Et elles sont, en l'absence de loi sociale à l'époque, elles sont par ailleurs exposées à toutes sortes de dangers liés à l'activité professionnelle et à leur statut de femme et de mère. Donc le mouvement féministe, en premier lieu, donc dans les années 1860 à peu près, même plus tôt, va d'abord demander l'accès aux femmes à la culture, à des possibilités de qualification professionnelle, afin d'assurer la subsistance, tout simplement, d'une part croissante de la population féminine allemande. Très rapidement, cette interrogation va s'étendre à d'autres, qui touche au statut des femmes dans le droit familial et conjugal. Pour le dire simplement, les femmes n'ont pratiquement aucun droit à partir du jour où elles se marient. Elles abandonnent tous les droits qu'elles avaient pu avoir en tant qu'individus jusqu'à leur mariage. Elles n'ont plus que des obligations. Et elles n'ont plus de droits, alors, ni vis-à-vis de leur mari, ni vis-à-vis de leurs enfants. Il y a donc là un enjeu majeur dans la révision qu'elle tente d'opérer du code civil et du code familial en particulier. Viennent ensuite, à la veille du tournant, enfin dans les années 1890, une concentration sur la question du suffrage des femmes. Et j'en parle ce soir d'autant plus volontiers qu'on a fêté cette semaine en Allemagne le centenaire de la proclamation du droit de vote des femmes, donc le 12 novembre 1918. Et c'est là donc une lutte que se sont un petit peu appropriées les féministes radicales en Allemagne, donc à partir du tournant du siècle. Cette lutte a dominé leur engagement féministe et ce que j'ai tenté de démontrer dans l'ouvrage Allemagne 1917-1923, c'est que, alors, je parle dans ma contribution des féministes radicales, mais au fond, on peut le dire au sujet des féministes radicales, aussi bien que des féministes modérées et des femmes social-démocrates, toutes, par leur engagement multiforme et inscrit dans la longue durée, ont très activement contribué au passage de l'Allemagne à cette transition vers une république, vers un autre système plus égalitaire, plus social, et vers plus de droits en général.
Merci beaucoup. Alors, juste avant de passer la parole à Michel Dupré pour le texte de Marianne Weber en tant que tel, on va écouter un deuxième extrait.
La femme moderne revendique de toutes ses forces la possibilité de se construire elle-même et de participer à la production du monde social. Ses conditions de vie ne sont plus les mêmes que celles des femmes d'hier, et elle bénéficie d'un niveau d'instruction supérieur. Tout comme ses objectifs de vie, les obligations qui sont désormais les siennes dépassent les frontières du personnel et du domestique. Ensuite, la femme moderne ne poursuit pas ses buts nouveaux pour elle-même, en tant qu'individu isolé. Elle le fait au sein d'une communauté de congénères qui partagent les mêmes vues qu'elle. Chacune peut maintenant s'engager dans des actions communes et manifester sa solidarité avec d'autres femmes. Lorsque, pour améliorer leur sort, elles se présentent comme de simples représentantes de leur genre, les femmes entrent en concurrence les unes avec les autres. Les femmes modernes considèrent comme grand et enrichissant le fait de pouvoir constituer des espaces d'action au service de leur cause collective, espace qui résulte de bien plus que de la simple agrégation d'intérêts de sexe spécifique. C'est qu'elles portent en elles une part d'universel humain qui aide à rompre l'isolement, à créer un lien communautaire, à se mobiliser collectivement et puissamment, à donner libre cours à leurs aspirations et à accomplir des tâches qui font sens. Le but que s'est fixé cette communauté d'action, ce mouvement de femmes, est de pouvoir disparaître en tant que telle dès que possible. Le but vers lequel convergent toutes les aspirations féminines sera atteint dès lors que les femmes ne bénéficieront plus, au sein de la société, de droits inférieurs à ceux des hommes, mais aussi dès lors que le genre féminin aura les mêmes chances de développement et la même autonomie que le genre masculin. À ce moment, les organisations qui représentent les intérêts particuliers des femmes seront devenues superflues, à l'exception peut-être de quelques corporations professionnelles particulières. Les femmes pourront travailler à transformer le monde avec les hommes qui partageront un même esprit. Pour les femmes, il n'y a pas d'espoir d'un avenir plus heureux que l'émergence prochaine de ce moment. Le mouvement féministe vise des buts pratiques qui touchent l'ensemble de la société, pas seulement les femmes. Élargissement des formations qui leur sont offertes, accès à des métiers pour lesquels elles estiment avoir les compétences requises, participation au travail social, même droit civique pour les deux sexes, reconnaissance de l'égalité en droit de l'homme et de la femme au sein du couple. Ces objectifs s'expriment pleinement à travers la formule qui figure dans le programme de la Fédération des associations allemandes de femmes. Le mouvement veut garantir aux femmes le libre épanouissement, toute leur force et de leur pleine participation à la vie culturelle.
Merci beaucoup. Alors, pour parler du texte de Marianne Weber, nous avons la chance d'avoir Michèle Dupré, qui est à la fois traductrice du texte de Weber avec certaines de vos collègues, que je vous laisserai laisser donner les noms. Mais aussi, vous avez coécrit le texte de présentation du texte dans la revue Sociaux. Donc, Michèle Dupré est chercheuse rattachée au Centre Marx Weber à Lyon, de la MS, enfin, il est Lyon-Saint-Etienne, donc si j'ai bien compris, la MSH de Lyon-Saint-Etienne. Vous avez une double qualification comme sociologue et comme spécialiste d'études germaniques. Et donc, vous avez entrepris de traduire un certain nombre de textes de Marianne Weber. Alors, vous m'avez dit que c'était lié à un projet ANR-DFG du début des années 2000. Et j'ai vu qu'il y a déjà un autre texte de Marianne Weber qui avait été publié, Les formes du travail parlementaire de 1919. Et donc, je vais vous laisser nous parler du texte publié là dans la revue Sociaux.
Eh bien, merci. Merci de donner l'occasion de parler de cette femme qui a un parcours très particulier et qui a été complètement méconnue et qui a été redécouverte en Allemagne dans les années 90 et que nous, on essaye de faire connaître en France. Et ça n'est pas simple parce que c'est quand même un personnage un peu oublié. Et alors même qu'elle représente un certain nombre d'intérêts pour comprendre tous les soubresauts qu'il y a eu à la fin du 19e et au début du 20e en Allemagne. Alors, on a vu surtout des grands mouvements. On a vu quand même un personnage avec Ernst Bloch. Là, c'est Marianne Weber. Donc, il me semble important de revenir un tout petit peu sur son parcours, comme a pu le faire Anne-Laure précédemment pour le mouvement féministe. Je vais essayer de faire très vite. Marianne Weber, pour les dates, c'est née 1870, morte en 1953, donc un long parcours en Allemagne. Elle est surtout connue jusqu'au 1990 comme étant la femme de Max Weber, qui a écrit une biographie de Max Weber, qui a essayé de faire publier les articles de Max Weber après son décès en 1920, parce que lui est né en 1864 et il décédera en 1920 à Munich, on reviendra là-dessus. Mais on oublie qu'elle a été une femme intellectuellement forte, puissante, discutante dans l'Allemagne des années 1890 jusqu'aux années 50, hein, puisqu'elle a dirigé des salons, etc. Et elle gagne à être gagnée, à être connue, alors même qu'elle fait partie des cercles et des groupes sociaux modérés de cette Allemagne-là. Alors, Marianne Weber, donc 1870-1953, elle est de la famille Weber, par son grand-père, qui est Karl Weber. Son père et sa mère sont défaillants. Le grand-père décide de l'envoyer dans la famille de Max Weber, qui est à Berlin. C'est là qu'ils vont se connaître. Et elle va être tout à fait marquée par deux figures, la mère, de Max Weber, Helena Fallenstein, et Max Weber lui-même, dont elle tombera puissamment amoureuse. Et ils se marieront en 1893. C'est un mariage entre cousins, assez conventionnel à l'époque, mais c'est entre cousins issus germains. Et elle, qui souhaitait devenir artiste, elle va plonger dans la vie intellectuelle allemande et dans la vie politique allemande, parce que Max Weber est, comme Bloch, à la fois un analyste et une personne engagée. Et je dis comme Bloch, mais Marianne Weber va toujours avoir cette double composante, c'est-à-dire elle va être à la fois analyste, sociologue, sans en avoir le titre, puisqu'elle n'aura pas de titre universitaire, et que la discipline sociologique est seulement en train de naître, et elle va être militante, engagée, et dans tous ses textes, on sent ces deux composantes. Alors, elle sera très vite militante de féministe, et bien évidemment, puisqu'elle va être subjuguée, assoiffée de connaissances en rentrant dans ce milieu intellectuel par son époux, elle va fonder une association en 1897 pour les études et la formation des femmes, pour les aider à s'émanciper par rapport aux hommes à travers la connaissance. Alors il faut quand même dire, si l'Allemagne est en avance pour le droit de vote des femmes, l'Allemagne est très en retard pour la formation des femmes par rapport à la France et par rapport à l'Angleterre. Les femmes accèdent très difficilement à des instituts de formation. Elles n'accèdent pas du tout à l'université. Dans un tas, y compris dans les premiers congrès de sociologie, elles n'ont pas le droit de parler. Si elles présentent un texte, il sera lu par les hommes. Donc on voit qu'il y a effectivement encore du travail à faire. Et elle va énormément jouer avec les féministes sur la question du droit. Et son premier grand texte de 1907, c'est porte sur Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, c'est-à-dire femme et mère, donc on retrouve tout à fait ce qu'a dit Anne-Laure, dans l'évolution du droit, et les féministes se battront pour essayer de renforcer les liens contractuels via le droit entre les hommes et les femmes, et notamment dans les contrats matrimoniaux, pour protéger à la fois les mères, les épouses et les enfants. Donc ça sera un axe de bataille, ça sera aussi un axe de bataille qui est la formation intellectuelle et l'accès à l'université. Il y en aura très peu. Il y aura une seule femme professeure pendant la République de Weimar qui, bien sûr, sera évincée par les nazis. Et puis, elle sera aussi bouleversée par un tas de courants de pensée qui vont traverser l'Allemagne, et notamment les courants de pensée qui vont essayer de repenser les relations sexuées entre les hommes et les femmes, qui vont prôner la liberté sexuelle, notamment avec Otto Gross, et on va voir dans deux, trois minutes à quel point ça va jouer de façon importante. Alors, dans le mouvement des femmes, Marianne Weber fait partie, d'abord elle fait partie de la bourgeoisie intellectuelle, industrielle. Sa famille, celle de Max Weber, sont des industriels qui vont promouvoir l'industrie allemande au-delà des frontières allemandes. Et alors, petit détail, elle va hériter de son grand-père et c'est elle qui apportera les moyens de vivre à ce couple. Max Weber aura peu de postes, hein, parce qu'il a déjà une santé défaillante, et c'est elle, comme Helene Fallenstein, qui va apporter les moyens de vivre au couple. Elle va développer ses propres initiatives au sein du mouvement des femmes. Et bien évidemment, elle va être du côté des modérés, c'est-à-dire qu'elle va être à la fois dans une fraction qui va être libérale pour ce qui est la liberté des individus, qui va être égalitariste pour ce qui est l'égalité des droits, mais qui va être assez conservatrice pour ce qui est des valeurs, et des valeurs notamment morales. Et puis, en matière de féminisme, elle va être ce qu'on appelle, non pas égalitariste, comme un certain nombre de féministes pourront l'être, elle va être dualiste, c'est-à-dire qu'elle considérera qu'il y a des fonctions différentes et des rôles différents selon si on est un homme ou si on est une femme, et notamment la notion de maternité va être quelque chose qui va lui permettre une différenciation entre les deux types, les deux genres. Vous avez entendu dans le texte qu'a lu, j'ai oublié votre prénom, la question du monde objectif et du monde subjectif. C'est une discussion qu'elle va mener avec Georg Simmel, qui lui est quelqu'un qui est un philosophe, sociologue, en marge de l'université parce que juif, il va être recruté seulement tardivement, est le seul qui ouvre ses séminaires aux femmes et qui va entrer en discussion avec Marianne Weber. Il faut que je me dépêche.
Non, tout va bien.
Et qui va entrer donc en discussion avec Marianne Weber autour de culture objective, culture subjective. Marianne Zimmel va dire les femmes, de par leurs caractéristiques propres, sont plutôt destinées à occuper des fonctions dans le cadre de la culture subjective, c'est-à-dire dans tout ce qui lie les femmes aux soins des enfants, de la famille, qui vont faire qu'elles vont être utiles dans les hôpitaux, dans l'enseignement, etc., etc. Marianne Weber va contester fortement cette thèse de Zimmel et dire le monde objectif dans lequel travaillent les hommes, l'industrie, l'administration, sont aussi des endroits où les femmes peuvent, selon leurs compétences, exercer des fonctions. Et là, elles le font non seulement en tant que femmes, puisque en tant que femmes, elles considèrent qu'elles sont fortes dans la culture subjective, mais elles peuvent jouer un rôle aussi dans la culture objective en fonction de ce, non pas de leur qualité de femme, mais de leur qualité d'être humain. Et d'ailleurs, elle s'interroge, les hommes pensent-ils toujours à leur qualité d'être humain quand ils exercent des fonctions dans le monde objectif, ou est-ce qu'ils pensent seulement à leur fonction d'homme en tant que représentant du genre masculin? Donc on voit bien, elle va être en discussion extrêmement forte. Elle est en discussion avec Zimmel parce que c'est un des rares qui va s'intéresser à la question des femmes. Max Weber n'abordera pas vraiment frontalement la question des femmes. Durkheim en France ne le fera pas non plus. Ça ne sera pas un thème central dans la sociologie naissante. Et elle, féministe engagée, va entrer en discussion autour de ces thématiques pour pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. Alors, 1919, le couple est pris dans le nationalisme, on voit bien. Ils sont tous les deux fortement engagés. Ils sont au début tout à fait engagés du côté de l'Allemagne, du côté nationaliste. Plus la guerre avance et plus ils se retirent et considèrent effectivement que c'est une catastrophe, y compris morale. Et puis, ils vont s'engager pour le changement politique, pour un changement politique modéré, pour une démocratie parlementaire, mais ils veulent un changement. Et ils vont contribuer à la création du DDP, Deutsche Demokratische Partei, qui va être un des trois partis qui vont faire la République de Weimar avec Das Zentrum et le SPD. Le DDP, tout nouvellement créé, obtiendra quand même 18,5% des voix et donc il permettra d'être une vraie force politique pour construire la nouvelle République. Et Max Weber fera partie des intellectuels qui vont conseiller les politiques pour élaborer la constitution de Weimar. Marianne Weber est très engagée, elle également, sur la question du vote des femmes. Mais comme toujours, elle analyse les choses et puis elle s'engage activement et elle va être dans la campagne et elle va se poser candidate et elle sera élue députée en 1919 dans la région de Bade. Donc personnage tout à fait haut en couleur. Elle sera députée et c'est à ce propos-là qu'elle écrit le texte qu'on a fait publier dans la Revue française de sciences politiques où elle décrit les formes de travail parlementaire. Alors elle décrit en sociologue de façon très claire les différentes actions, les différents types d'acteurs, les alliances qui peuvent se nouer entre des fractions opposées pour pouvoir faire passer quelque chose. Le peu de rôle des femmes, bien évidemment, puisqu'elles viennent juste y rentrer. Et c'est un texte assez extraordinaire, mais elle démissionne très très vite parce que Max Weber est à ce moment-là, enfin démissionne, je ne sais pas si on dit démissionner d'un poste politique, mais elle est appelée à Munich, à l'université de Munich, où il ira en 1919. Il ira pour plusieurs raisons. D'abord pour Else Jaffé, donc la femme d'Edgar Jaffé dont on a parlé tout à l'heure, avec lequel il a une relation amoureuse extrêmement forte qui l'amènera à réfléchir sur ce que c'est que l'érotisme. Et il en verra et il considérera que c'est une forme de rationalité, de culture importante qui permet de dépasser les faits naturels. Marianne Weber est engagée dans une réflexion. Marianne Weber, elle est pour le mariage unique, mais pour les relations amoureuses libres. Elle accompagnera Max et Else, et Max mourra en 1920, entouré par Marianne et par Else Jaffé. Je pense que je peux en rester là.
Très moderne.
Très moderne, n'est-ce pas?
C'est une effectivement, femme extraordinaire. Dame, vous méritez d'être connue. Moi, je dois avouer que j'étais comme... ce que vous décrivez dans votre introduction, c'est moi, je la connaissais que comme femme de Max Weber, comme gardienne du temple une fois qu'il est mort, comme auteur d'une biographie très hagiographique, effectivement, de Max Weber.
Est-ce mais que, juste une petite chose, les choses se croisent parce que, bon, on voit Edgar Jaffé, Else Jaffé, bon. Mais il y a aussi la République, il connaît bien la République des conseils, il y est allé, il est engagé, et puis il connaît Ernst Toller. Et il va défendre, lui, le modéré, il va défendre Ernst Toller devant les tribunaux pour qu'il ne soit pas condamné très fortement. Hein, et donc, on voit un certain nombre. Par contre, il va caractériser des gens comme Eisner, comme des gens qui sont des éthiques de conviction, avec lesquels, du coup, un discours rationnel, la rationalité pour Max Weber, le summum, eh bien, est quelque chose de compliqué.
Merci beaucoup.
C'est peut-être un aspect que je n'ai pas eu le temps du tout de développer, mais sur la République des conseils de Bavière, on peut parler aussi d'une Heidelberg connexion, parce qu'en fait, il y avait énormément de révolutionnaires qui étaient d'anciens élèves de Weber, de Heidelberg, et notamment, effectivement, donc Ernst Toller. Bon, alors, il avait des amis, donc Edgar Jaffé, qui était ministre des Finances sous le gouvernement Eisner. Et également, on a... Otto Neurath, qui a été nommé à la commissaire
du peuple,
commissaire du peuple à la socialisation de l'économie sous la République des conseils. Et en fait, Weber va défendre, il va effectivement faire des écrits lors des procès de tous ces révolutionnaires ensuite. Et alors même que il les trouve, par exemple, Otto Neurath, il le trouve farfelu complètement. Il dit que c'est complètement irréaliste. Enfin, ces théories sont inapplicables. Mais étonnamment, effectivement, et Ernst Toller est aussi d'exemple type parce que c'est à l'époque. Alors, il y a Alexandre Dupérix dans l'ouvrage a publié un article sur Max Weber et sur ses deux discours. Surtout politique Karlsberuf, qui l'a prononcé devant l'université de Munich, hyper réactionnaire, parce que les étudiants étaient alors là contre-révolutionnaires au maximum. Hein, et dedans, donc, il développe sa thèse. Je ne vais pas dire parce que là, je ne suis pas une professionnelle, de la conviction, l'éthique de conviction. Et Ernst Toller est l'exemple qu'il peut prendre, c'est-à-dire qui s'engage et qui agit. Enfin, je vais parler, vous me corrigez, hein, et sans prendre en conséquence la mesure des conséquences de ses actes. Mais là, vous pourrez me peut-être préciser l'éthique de conviction.
C'est l'opposition entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité.
Voilà, oui.
L'éthique de responsabilité. Et pour Max Weber, l'homme d'État, c'est l'éthique de responsabilité qui doit primer sur l'éthique de conviction. Effectivement, les révolutionnaires type Toller, Eisner sont dans la perspective de l'éthique de conviction. Donc, ils pointent les limites.